forme démocratique innovante sur les questions écologiques, qu'est-ce qui nous a poussé à ça. Troisièmement, comment est-ce qu'on a organisé tout simplement, c'était quoi le processus, comment étaient invités les experts, etc., etc. Et puis un dernier point sur où on en est, en essayant de ne pas être trop politique, parce que c'est les citoyens en fait qui sont intéressants dans cette convention et c'est eux qui décident. Donc, je veux dire, mon avis, on me le demande souvent, mais assez peu important finalement dans ce processus-là, parce que c'est eux qui décident et pas moi. C'était en quelques mots pour vous situer d'où je parle d'abord. Donc moi, je m'appelle Mathilde, j'ai 30 ans. Pendant 10 ans, j'ai surtout été sur les questions écologiques, à la fois côté gouvernement pendant la COP21, un petit peu côté entreprise également, et plus récemment côté ONG, notamment dans une structure qui s'appelle On est prêt, qui s'est fait connaître notamment avec en co-réalisant la vidéo de la pétition de l'affaire du siècle. Et depuis 3 ans, en fait, depuis la fin de la COP21, je me suis engagée sur les questions démocratiques pour une raison simple, c'est qu'à la fin de la COP21, avec plusieurs amis, on faisait un constat qui était de dire cet accord, il fallait le faire, c'est le plus ambitieux qu'on pouvait avoir à ce moment-là, néanmoins, il nous met sur une trajectoire à 3 degrés au niveau mondial, qui est une trajectoire mortifère, et sa réalisation dépend de ce que font les États à leur échelle. Or, nos démocraties, pour les États qui sont démocratiques, en l'occurrence la France, ne sont pas outillés aujourd'hui pour permettre de relever le défi de la transition écologique. Donc c'est comme ça que moi, il y a 4 ans maintenant, je fais le switch vers les questions démocratiques en étant chez Démocratie Ouverte, surtout d'abord à essayer d'innover à l'échelon local quels sont les outils de démocratie qui permettent finalement d'accélérer cette transition écologique un peu partout sur le territoire en France. Et donc, je suis allée à la fois en France et en Amérique latine à la recherche des innovations démocratiques qui permettent d'accélérer cette transition écologique. Et j'ai vu, à travers ces initiatives, des assemblées citoyennes, mais tout comme des budgets participatifs et plein d'autres outils sur lesquels on pourra revenir si ça vous intéresse. Comment est née la convention? Pour être très honnête, si je devais résumer la chose en une phrase, elle est née d'un mouvement qui est celui des Gilets jaunes. Un mouvement qui est né sur la taxe carbone, je vous apprends rien. Une taxe carbone qui est mal passée parce que vue comme injuste socialement parce qu'elle pèse 3 fois plus sur les personnes les plus des classes populaires par rapport aux personnes les plus aisées. Suite à ça, et quelques mois après, arrive la question de l'affaire du siècle où les 4 ONG co-requérantes face à l'État pour inaction contre le changement climatique décident de déposer un recours en justice. Donc les 4 ONG, c'est Oxfam, c'est la Fondation Nicolas Hulot, c'est Notre Affaire à Tous, et qui est-ce que j'oublie et c'est Greenpeace, pardon. Et la réponse qu'ils ont eue lorsqu'ils ont déposé le recours en justice et qu'ils ont été reçus par le Premier ministre, c'est « super coup de com', vos 2 millions de signataires », et très belle réponse au mouvement des Gilets jaunes. Et ce moment où le gouvernement dit à ces 4 ONG, très belle réponse au mouvement des Gilets jaunes, les 4 ONG voient rouge en disant « mais non, pas du tout, on n'est pas du tout dans quelque chose où on oppose justice sociale et écologie, enfin, on est plutôt en train justement de faire tout un travail de notre côté à les lier, donc un peu alerte rouge de leur côté ». C'est pour ça qu'avec Cyril Dion, Laurence Tubiana, Priscilla Ludowski, Gilets jaunes et beaucoup d'autres, on décide de créer un collectif qui rassemble des Gilets jaunes, des écologistes et des acteurs experts d'innovation démocratique. C'est un collectif qui s'appelle Gilets citoyens. Gilets parce que ça a vocation à faire le lien avec le mouvement des Gilets jaunes dont cette convention est clairement née pour nous. Et citoyens pour dire assez clairement qu'on remet la balle au centre. On arrête un peu cette guéguerre entre Gilets jaunes et gouvernement qui à l'époque commençait à agacer un certain nombre de personnes. Et on essaie de remettre la balle au centre pour un vrai échange démocratique. De ce collectif naît l'idée de lancer une assemblée citoyenne sur 3 sujets. La transition écologique, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui est la demande numéro 1 des Gilets jaunes à ce moment-là, et la justice fiscale. Je vous passe certains détails, je pourrais revenir si vous voulez de l'histoire. On finit par présenter cette proposition au président Emmanuel Macron qui embraye finalement, puis s'ensuit 6 rendez-vous avec l'Élysée, avec le MTE. MIES, ministère de la Transition écologique et solidaire, pardon, et avec Matignon, pendant lesquels on négocie un peu terme à terme, finalement, la manière dont va se dérouler cette convention. Parce que les Gilets citoyens, quand on a sorti la lettre ouverte pour dire on veut une assemblée citoyenne sur ces questions-là, pour être très honnête, on pensait au début que cette lettre ouverte, comme beaucoup d'autres, resterait lettre morte, entre guillemets. Et donc, on avait commencé à travailler et dans l'optique de la mettre nous-mêmes en place. Donc, il y a tout un travail qui a été fait sur combien de temps ça dure, combien de citoyens, comment ils sont tirés au sort, est-ce qu'ils sont mélangés avec des parlementaires, comment est-ce qu'ils sont formés, quels sont les experts qui sont invités, etc. etc. Et donc, tout ce travail-là, finalement, on l'a mis à disposition de l'État et surtout, œuvrer à ce que des principes véritablement démocratiques soient respectés par le gouvernement, parce qu'on avait été échaudés assez fortement par des principes méthodologiques bafoués lors du grand débat national. Je pourrais revenir sur, ou je peux vous donner peut-être les grands principes et les grandes lignes rouges. Il y avait évidemment une question d'indépendance, donc éviter que ce soit organisé comme le fut le grand débat par deux ministres du gouvernement, et donc nommer un comité de gouvernance ad hoc, indépendant du gouvernement. Il n'y a que deux personnes du ministère de l'écologie sur 15 personnes dans ce comité de gouvernance dont je fais partie, et qui est composé de personnes qui sont des spécialistes sur les questions écologiques, des personnes qui sont spécialistes des questions démocratiques et des personnes qui sont spécialistes sur les questions de justice sociale, plus de personnes du ministère. Le deuxième principe, c'était d'avoir un mandat ambitieux et court terme. Donc, c'est les fameux. L'objectif de cette convention, c'était d'avoir des propositions pour réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France dans un esprit de justice sociale. Typiquement, ça a été un des points de négociation avec le gouvernement. Nous, quand on est arrivé avec le collectif des Gilets citoyens, on demandait une diminution d'au moins 55, voire 60%. 55% étant l'objectif au niveau de l'Europe aujourd'hui. Et le gouvernement, en gros, nous a dit on n'arrive même pas à faire 40%, ce qui est déjà dans la loi. Si on arrivait déjà à faire ce à quoi on s'est engagé, on serait bien content. Donc, on ne peut pas mettre autre chose que 40%. Donc, on atterrit sur ce au moins 40%. La troisième chose, c'est qu'il y ait des garants du processus, et notamment garants de l'engagement que prendraient les pouvoirs publics. Quand Emmanuel Macron accepte de lancer la convention, il s'engage à passer sans filtre les propositions des 150, soit au référendum, soit à la voie parlementaire, soit à la voie réglementaire directe. On savait très bien que ce sans filtre, il tenait sur la parole d'un seul homme, parce qu'on est aujourd'hui là dans une expérience démocratique dont la plus grande fragilité, c'est l'inexistence juridique. Autrement dit, si le gouvernement ne tient pas son engagement, il n'y a pas de recours juridique possible, il n'y a que un rapport de force, j'allais dire politico-médiatique, qui existe. Pour être sûr que ce rapport de force politico-médiatique puisse exister en bout de chaîne si le président de la République ne tenait pas son engagement, ont été nommés trois garants, dont un, Cyril Dion, qui, en tant qu'initiateur de cette affaire, avait un rôle spécifique d'être garant de la parole présidentielle. Les deux autres garants avaient vraiment pour rôle de vérifier que le comité de gouvernance vérifiait bien que le débat contradictoire était respecté, que les citoyens n'étaient pas manipulés, etc. etc. Donc voilà un peu comment est-ce que c'est né. Donc c'est à la fois quelque chose qui vient de la société civile, et notamment du mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'il faut voir le gilet citoyen comme la bonne courroie de transmission avec les bonnes personnes au bon moment, mais ce n'est pas nous qui avions le rapport de force, c'est vraiment le mouvement des Gilets jaunes, ça on est très clair au sein de notre mouvement. Et c'est aussi une certaine audace du président de la République d'accepter un exercice démocratique nouveau à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on décide de lancer ça alors qu'au début, un grand nombre d'ONG environnementales nous disent « votre truc, ça ne sert à rien, c'est vraiment un cadeau à Macron, les solutions, on les connaît, pourquoi réunir 150 gugus qui vont aboutir à des propositions toutes molles ?» Pourquoi est-ce qu'on décide de le faire néanmoins ? La première chose, c'est l'idée que notre démocratie va mal. Ça, je pense que tout le monde aujourd'hui, qu'on soit élu ou pas élu, on est d'accord, et qu'il faut essayer d'y ajouter d'autres formes de représentation parce que la déconnexion entre les élus et les citoyens est de plus en plus forte. Le tirage au sort est un des outils qui permet de faire ça. Et c'est le cas dans de nombreux pays qui arrivent à cumuler à la fois les élections de représentants de manière assez classique, comme dans toute démocratie représentative, et du tirage au sort pour certains exercices, pour parvenir à une nouvelle étape de notre démocratie qu'on appelle une démocratie délibérative. En gros, c'est sortir de la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie sondage, où en fait on demande aux citoyens leur avis sans qu'ils aient été un peu formés, donc ils donnent leur avis de manière non éclairée, à une démocratie où les gens ont un bon niveau d'information et la possibilité de débattre pour changer d'avis. Et se changer d'avis les uns les autres. Ça s'est passé pendant la convention mille fois, où des climato-sceptiques ne le sont plus, des gens qui étaient à fond pour l'obligation de rénovation thermique ne le sont plus, ou en tout cas que sous certaines conditions. Enfin ça, il y a eu énormément de changements d'avis. C'est ça pour nous la véritable démocratie, c'est la place du débat, et un débat informé et éclairé qui puisse se tenir. Pourquoi le tirage au sort, ça nous semble un outil intéressant dans la crise de la représentation qu'on a aujourd'hui en démocratie? C'est que quand vous regardez l'Assemblée nationale, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui zéro ouvrier parmi l'ensemble des députés français. Zéro ouvrier, alors que c'est entre 15 et 20% de tête hein, de la société française qui est aujourd'hui de classe ouvrière. Forcément, vous pouvez vous dire que cette catégorie de population se sent pas ou mal représentée par nos élus aujourd'hui et donc s'abstiennent massivement ou votent Rassemblement National selon la lecture que vous en avez. Et donc le tirage au sort permet finalement de mieux représenter ceux qui sont mal représentés par l'élection aujourd'hui. Donc ça concerne en gros les classes populaires, les jeunes et en partie les femmes. De moins en moins les femmes, mais c'est encore vrai pour les femmes. La deuxième raison qui nous pousse à réaliser cet exercice, c'est cette idée que finalement les citoyens sont en avance sur les élus sur la question écologique, qu'ils ont envie de faire davantage et qu'ils ne sont pas toujours en capacité de le faire. Attendez là. Est-ce que vous m'entendez toujours ?
Oui, oui, on vous entend, Mathilde.
Ok, pardon, parce que j'ai eu un appel en même temps. Et donc pour ça, bah, tout simplement, l'idée, c'était de le vérifier en prenant 150 personnes tirées au sort et en voyant finalement où est-ce que eux placent le curseur. Est-ce qu'ils vont vers de l'ultra-radical? Est-ce qu'ils vont vers des choses complètement molles à partir de d'informations vérifiées par la science? La troisième chose, et ça, je pense qu'on peut, dans la critique qu'on peut faire aujourd'hui de la convention et auquel on est clairement prêt à se prendre au jeu, hein, Christian, bien sûr, c'est qu'on voulait essayer de changer la pratique référendaire de notre pays, dans le sens où, depuis le début, l'engagement du président de la République est de laisser la possibilité aux 150 de déclencher un référendum. Il est possible que ça donne lieu à un référendum in fine sur un des articles de la Convention. Néanmoins, nous, ce qu'on poussait beaucoup en tant que collectivité des citoyens, c'était l'idée d'un référendum à questions multiples. En gros, ça veut dire plusieurs questions le même jour pour éviter qu'on continue avec la pratique plébiscitaire du référendum où en France aujourd'hui, quand on y a un référendum, en réalité, on ne répond pas tellement à la question, on répond à « est-ce que je suis pour ou contre le président de la République en place ?» Ça, c'est une pratique très française du référendum. Il y a plein de pays dans lesquels ce n'est pas du tout ça, la pratique du référendum, et où on a une pratique qu'on trouve plus saine, nous, c'est-à-dire est-ce que je réponds oui ou non à la question. Le référendum à questions multiples permet, et on a vu des transitions comme ça, de passage d'une pratique référendaire à une autre. Voilà sur le pourquoi je pourrais revenir et creuser certains points, mais je pourrais passer 20 minutes juste là-dessus, mais le but, c'est quand même de balayer un peu tout. Comment est-ce que ça a été organisé et comment ça s'est passé pour les 150? Donc, ces 150, ils ont été tirés au sort pour être représentatifs de la diversité de la société française. Bon, ça veut dire quoi et en gros, comment s'est passé le tirage au sort? C'est un tirage au sort qui a été réalisé sur la méthode des quotas. Je ne sais pas si vous en êtes familier, c'est une méthode qui est régulièrement utilisée par les sondages. C'est-à-dire que pour être représentatif sans utiliser de quotas, il faut avoir plus de 1000 personnes. Vous imaginez bien qu'une assemblée à 1000 personnes qui délibère, c'est un enfer à organiser, en tout cas ça coûte extrêmement cher. Donc ce que font les instituts de sondage en général, c'est de tirer au sort entre 100 et 150 personnes sur la base de quotas, de critères. On a choisi nous 6 critères, c'est-à-dire de sexe, d'âge, de niveau de diplôme, de catégorie socio-professionnelle, de zone géographique, tom-tom compris, et de typologie de zone géographique. Est-ce que vous vivez plutôt en zone rurale, urbaine ou périurbaine? ce qui permettait d'avoir vraiment une sorte de mini-France, comme dit souvent l'institut de sondage en question, qui était Harris Interactive, pour ceux que ça intéresse. Une fois tirés au sort, ces 150 citoyens et citoyennes se sont retrouvés pendant 7 week-ends, espacés chacun environ d'un mois, sauf au moment évidemment des grèves et du Covid qui ont espacé beaucoup plus le processus, avec un planning de travail qui était le suivant. Une première session où leur était passée la commande politique. Donc Édouard Philippe, premier ministre de l'époque, est venu leur passer la commande, entre guillemets. Voilà, moi je veux que vous trouviez des propositions qui permettent de réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Et l'engagement que le gouvernement prend, c'est de les transmettre sans filtre au Parlement, à la voie référendaire pour le président de la République ou à la voie réglementaire directe. Deuxième objectif de cette première session, c'était de poser le diagnostic scientifique. Ils ont donc eu l'intervention de Valérie Masson-Delmotte, qui est une scientifique du GIEC. Le GIEC, c'est la structure qui rassemble tous les scientifiques du monde entier qui bossent sur les questions climatiques depuis des dizaines d'années maintenant, et qui réalise régulièrement un rapport. Valérie Masson-Delmotte, qui leur a donc présenté ce que disent les scientifiques du monde entier aujourd'hui sur où en est le dérèglement climatique. À la fin de cette première session, et ça nous a permis de vérifier que ces citoyens étaient loin d'être des militants tous ultra convaincus, les trois quarts d'entre eux, et c'était un choc pour nous, trois quarts d'entre eux sont venus nous voir en nous disant « Je me suis pris une claque, ça a été un électrochoc, une baffe, sentiment d'impuissance énorme, parce que, à part les quelques militants qui étaient là et les quelques climato-sceptiques qui étaient là, les trois quarts d'entre eux avaient conscience que bon, bah oui, on sait qu'il y a un petit problème avec le climat, mais pas du tout du niveau d'urgence, pas du tout du niveau d'impact sur nos modes de vie, et un peu dans cette idée que finalement, en faisant un peu le tri sélectif de nos déchets et un peu de vélo, je caricature, hein, ça serait bon, finalement, on aurait réglé le problème, quoi. Après cette première session de diagnostic scientifique un peu rude pour les 150, a eu une deuxième session toujours pas très marrante sur quels sont les problèmes. Qu'est-ce qui fait que finalement, alors que tout le monde semble parler de transition écologique, on n'arrive pas à aller plus vite, avec les scientifiques nous disent tout le temps que ça ne va pas assez vite. Et donc pour ça, les citoyens ont été répartis en 5 groupes de travail, se loger, se nourrir, se déplacer, consommer, produire et travailler, couvrant en gros le quotidien des citoyens, mais aussi des modes de production derrière. Et dans ces 5 groupes, ils ont eu des intervenants venant d'horizons extrêmement différents et en général pas du tout d'accord entre eux sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cette transition écologique. Je te donne un exemple à cette session 2. Dans le groupe Se nourrir, vous aviez par exemple une personne de la FNSEA, qui est un syndicat agricole qui n'est pas connu pour être très allant sur les questions du bio, par exemple. Vous aviez Greenpeace. Et vous aviez un distributeur, je ne sais plus si c'est Carrefour ou Système U, et donc chacun donnait son point de vue sur qu'est-ce qui bloque et quels sont moi, en tant qu'intervenant, en tant qu'acteur, mes blocages et qu'est-ce qui fait que je ne peux pas aller plus vite. La troisième session, c'était sur les solutions. Pareil, toujours dans un débat contradictoire, si je donne un exemple, dans le groupe Se déplacer, là, il y avait à la fois une gilet jaune, Priscilla Ludowski, il y avait Louis Gallois, qui est l'ancien PDG de la SNCF, d'Airbus, qui est aujourd'hui chez Renault, et puis un expert du CESE sur les questions de mobilité. Et à chaque fois, vous voyez, c'est vraiment cette règle du débat contradictoire où les seuls intervenants qui ont été seuls devant les 150, c'est le président de la République lui-même, évidemment, Valérie Masson-Delmotte du GIEC, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, c'est plus la peine de mettre quelqu'un du GIEC en face de climato-sceptiques, que la science a suffisamment avancé pour dire qu'il y a un consensus scientifique et pas le remettre en cause. Et Nicolas Hulot, parce qu'il était demandé par plus de la moitié des 150. Les autres sessions, à partir de la quatrième jusqu'à la septième, ont vraiment été des sessions de délibération entre eux. Il y avait beaucoup moins d'intervenants par la suite. Et en gros, ils se sont engueulés, rabibochés, ils trouvaient finalement des voies sur lesquelles ils étaient d'accord. Ils ont choisi de mettre le curseur là où ils le souhaitaient sur les différentes propositions qu'ils avaient. Résultat des courses, session 7, 149 propositions sortent de la convention. Elles sont remises au gouvernement en juillet, c'était toujours en juin. Emmanuel Macron s'engage à en reprendre sans filtre 146 et met 3 jokers. trois jokers sur une sur le préambule de la convention où les citoyens proposaient de mettre un peu au même niveau l'environnement avec d'autres principes présents dans la Constitution. Un deuxième joker sur l'idée de taxer les dividendes à hauteur de 4% des entreprises qui distribuent plusieurs, je crois que c'est plus la limite exacte, je crois que c'est 10 milliards par an de dividendes à leurs actionnaires. Et le troisième joker qui a été mis en place, c'est l'idée de faire passer de 110 km/h à 110 km/h la vitesse sur les autoroutes françaises. Mis à part ces trois jokers, il y avait un engagement du président de la République de tout reprendre. Juste pour info, sur les 149 mesures qui ont été testées par différents instituts de sondage, il n'y en a qu'une seule qui était rejetée par les Français, c'est celle du passage de 130 à 110 km/h sur autoroute. Toutes les autres étaient soit plébiscitées à très haut niveau, c'est-à-dire plus de 80% des Français étaient pour, soit au-dessus de 60% pour les plus touchies d'entre elles. Petit à petit, entre en juin et aujourd'hui, les 150, en tout cas, je prends les mots qu'ils peuvent avoir aujourd'hui dans la presse, ont la sensation que leurs mesures, et je pense que vous voyez, sont en grande partie détricotées par le gouvernement malgré l'engagement présidentiel du sans-filtre, qui est donc remis en cause. Et on arrive à un projet de loi où donc, les propositions de la Convention sont traduites par différents canaux, à la fois le projet de loi de finances, le plan de relance, et majoritairement, certaines choses de l'ordre réglementaire est majoritairement reprise dans le projet de loi climat et résilience qui est sorti il y a quelques jours du Conseil des ministres et qui arrive sur la table du Parlement au mois de mars. Projet de loi qui est très critiqué parce que très loin finalement de l'ambition proposée par les 150, de l'aveu lui-même du gouvernement, puisque l'étude d'impact qui est faite montre bien qu'on est loin des 40% ambitionnés et donnés comme mandat aux 150 de la Convention. Donc voilà où on en est. Peut-être pour vous donner quelques exemples de mesures avant de vous laisser la main et les questions. Dans les mesures un peu les plus citées, les plus, qui tiennent le plus à cœur aux citoyens, aux 150, il y a l'obligation de rénovation thermique des bâtiments. Il y a l'idée de chèque pour les produits bio, c'est-à-dire en crise sociale, pouvoir permettre à chacun de pouvoir se nourrir, mais de flécher cet argent vers des produits bio locaux pour faire transformer l'agriculture vers quelque chose de plus résilient demain. Il y a la possibilité de louer des véhicules électriques pour une raison simple, c'est que les véhicules électriques sont extrêmement chers à l'achat, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Et donc, une des idées qui était sortie de la Convention, c'est de permettre de la location longue durée pour que tout le monde puisse avoir accès à ce type de biens. Il y a l'idée de supprimer les lignes aériennes à moins de 4 heures s'il y a une alternative en train qui permet de faire ce chemin en 4 heures. Voilà quelques exemples, je pourrais bien sûr revenir, il y en a 149, donc je ne vais pas tous les faire, et plutôt répondre à vos questions tant sur la forme de l'exercice que sur le fond. J'espère que je n'ai pas été trop longue, je n'ai pas regardé le temps, Christian.